Voilà, donc c'est le cours de doctrine appliquée et on est surtout, on continue dans notre série sur l'identité, savoir qui je suis, parce que c'est quelque chose de très important qui nous travaille constamment, consciemment ou inconsciemment. Hein, quelquefois, on a, vous savez, il y a, dans le monde, il y a cette expression d'avoir des crises de cafard ou d'angoisse. Hein. On a rencontré avec ma maman cette semaine une dame dans une réunion et en fait, elle est assez âgée et elle accompagnait son mari parce qu'elle ne peut plus supporter d'être toute seule. Elle peut pas, quand elle est toute seule, elle a des crises d'angoisse. Et donc, d'où ça vient tout ça? D'accord? D'où ça vient? C'est parce qu'on a un passé, on a une histoire, on a une crainte de l'avenir, crainte de la mort, crainte de notre valeur. Et c'est ça, de savoir qui on est, c'est quelle est ma valeur? Quelle est mon identité? Qui je suis et qui je suis, ça veut dire qu'est-ce que je vaux? D'accord? Et combien d'entre nous, on peut souffrir de l'enfance, de peut-être du rejet d'un parent, des deux parents, ou peut-être de l'indifférence de nos parents, ou d'un manque d'affection, ou d'un manque de compréhension, ou d'un manque d'écoute, ou d'un manque... parce que voilà, nos parents étaient ce qu'ils ont été. Certains ont eu la chance d'avoir des super-parents. Et même les super-parents ne sont pas parfaits, il n'y en a pas de parfaits. D'accord ? Puis si ce n'est pas un parent, ça peut être un voisin, ça peut être un prof, ça peut être n'importe qui nous a peut-être atteint dans notre identité, hein, qui nous a peut-être blessés dans notre image propre. Peut-être c'est aussi nos mauvaises décisions, nos mauvaises priorités, nos mauvais choix qui ont amené peut-être des échecs dans nos vies, dans nos études, dans ces domaines-là peut-être, qui ont fait que voilà, peut-être on se voit comme un échec. Alors, qui je suis? Et la question que je partageais avec nos jeunes cette semaine-là, et en parenthèse, merci pour vos prières. Pour eux, continuez, on a une belle semaine, une belle soirée avec eux, et c'était, voilà, on a semé, et on veut croire que maintenant c'est le travail de Dieu de garder le dépôt dans le cœur de ces jeunes. Mais je parlais de l'importance de qui je suis. Parce qu'ils sont en pleine recherche de qui ils sont. Mais je veux dire, c'est très fort à cette période-là de l'adolescence, mais ça nous poursuit toute notre vie, hein. Et après, qui peut dire qui nous sommes? D'accord? Alors, qui nous connaît le mieux et le moins bien, peut-être? Ça va ensemble. C'est nous-mêmes. D'accord? Est-ce que moi, je suis la meilleure personne pour savoir et définir et dire qui je suis? Eh bien, c'est un peu délicat parce qu'en fait, on est à la fois juge et partie. Donc, on n'est pas du tout objectif. Et ça veut dire que soit on va s'encenser et on va se prendre pour quelqu'un qu'on n'est pas, ou soit on va se dénigrer. Il n'y a pas très peu d'équilibre en règle générale. Alors selon les jours, s'il fait beau, si on va bien, si les choses passent bien, oh, tout va bien, on est le meilleur du monde. Et puis il y a des jours, alors là, on est le dernier des derniers. C'est-à-dire, on n'est même pas digne de vivre, on n'est même pas digne que Christ soit mort sur la croix. Et ça, c'est vrai, personne n'est digne que Christ. Mais il a quand même fait, je veux dire. Donc voilà, ça c'est important de bien comprendre que nous sommes les moins bien placés en réalité. Pourtant, j'aimerais vous dire combien de temps nous perdons à nous estimer, à nous juger, à nous calculer avec nos critères, avec nos émotions, avec notre appréciation. Et souvent quelque part, et c'est une forme d'orgueil, c'est qu'on se dénigre. Et on se dit, ben voilà, moi je suis un échec. Alors peut-être pas dans tous les domaines, hein. Il y a peut-être un domaine qui fait qu'on a encore un peu d'espoir, mais dans beaucoup de domaines, peut-être ça c'est un échec, ça c'est un échec, ça c'est un échec. Ce qui fait qu'après, ben, si on se voit comme un échec, et si Dieu nous appelle à faire quelque chose, on va dire, ben attends, ben moi je ne peux rien faire, moi. Je suis un échec. D'accord? Et on sait bien que le diable ne peut pas voler notre salut, mais s'il peut nous voler cette vie avec Christ, cette découverte de notre identité et les œuvres que Dieu a préparées d'avance, auxquelles il nous appelle, dans lesquelles il nous appelle, à deux choses. Un, le connaître, et deux, nous connaître. Et on va voir le thème de ce cours ce soir, c'est que si vous voulez savoir qui vous êtes, il faut connaître Jésus-Christ. Parce que Dieu nous a prédestinés en Romains 8, 29 à lui ressembler. D'accord ? Ça, c'est notre nouvelle identité, ça, c'est ce que nous sommes, ça, c'est la vérité, ça, c'est ce qui restera une fois qu'on sera mort. D'accord ? C'est Jésus-Christ en nous. OK ? Donc, nous sommes pas les mieux placés pour déterminer. Donc, arrêtons de perdre du temps à regarder à nous-mêmes, à désespérer sur nous-mêmes, ou alors à se gonfler de nous-mêmes. Hein ? Et c'est vrai que, j'aimerais vous dire qu'on est tous comme ça, hein, mais quand on parle avec les gens et qu'on rencontre des nouvelles personnes, on va toujours essayer de se présenter plutôt du bon côté, n'est-ce pas ? Hein, alors si on a réussi certaines choses, on va parler de ça. Mais ça cache souvent beaucoup d'échecs derrière ou de mécontentement quelque part. Donc, nous ne sommes pas les mieux placés pour savoir qui nous sommes. D'accord? Ensuite, le monde. Est-ce que le monde est bien placé pour définir ce que nous sommes? Et le monde, il a ses critères, ses dictates, qui sont des exigences absolues. Et j'aimerais vous dire qu'il est sans sentiment. Alors, ce qui fait le monde, c'est que certains, ils les encensent, et puis d'autres, ils les écrasent. D'accord? Et c'est des fois les mêmes, hein. D'un coup, parce que on sait que le monde, il est géré par le prince de la puissance de l'air, le malin, le diable, le père du mensonge. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben, c'est qu'il s'amuse à faire croire aux gens qu'ils ont de la valeur, il leur donne du succès, tous les gens sont contents d'entendre leur musique, ou leur chant, ou voir leur qualité sportive à la télévision, peu importe. Et ces mêmes personnes, un jour, sont des héros, et le lendemain, parce qu'ils ont fait une erreur, sont les derniers. D'accord ? Et c'est la même personne. Alors, c'est qui, vraiment ? C'est qui ? Quand est-ce que le monde a raison ? Quand les gens sont en haut, quand les gens sont en bas ? Donc, soit il nous rend orgueilleux, soit il nous rend miséreux, le monde. Donc, il n'est pas... ce système-là n'est pas celui qui doit dicter ce que nous sommes. Et pourtant, ça nous conditionne. Parce que ces critères-là, malgré tout, c'est ceux qui nous entourent et ceux qui font que souvent on se lamente parce qu'on n'est pas à la hauteur de ce que le monde a donné comme critère. D'accord ? Ensuite, les autres. Les autres. Bah oui, les autres. Alors, j'ai placé quatre catégories. Il y a mes amis, mes ennemis, mes parents et encore une autre qu'on va voir à la fin. Mes amis, eux, ils sont peut-être pas très objectifs, parce qu'ils ont, c'est mes amis, donc ils me voient du bon côté. Peut-être ils me connaissent un peu, ils voient aussi, ils connaissent peut-être mes mauvais côtés, mais bon, c'est mes amis, donc est-ce qu'ils sont vraiment très objectifs pour définir qui je suis ? Pas si sûr que ça. Mes ennemis, alors eux, ils sont pas du tout objectifs, hein, ils ont un parti pris tout de suite, et même pas, donc déjà, ils vont voir que le mauvais côté. Les autres vont voir que le bon côté, les autres vont voir que le mauvais côté. Mes parents. Bah oui, mes parents, ils me connaissent, peut-être, c'est sûr. Peut-être c'est eux qui me connaissent le mieux, dans un certain sens. Mais ils me connaissent souvent que naturellement. Hein, ils connaissent mes erreurs, et puis ils me connaissent surtout quand je suis avec eux. En grandissant, ils savent pas comment je me comporte à l'école, peut-être ils entendent par les profs, comment je me comporte avec mes camarades. Et quand je suis adulte, comment je travaille avec mes collègues, avec ma famille, ils savent peut-être pas forcément. Ils savent que ce que je montre, on sait. Ils savent ce qu'on montre, d'accord. Donc même ceux qui devraient être les mieux placés, ils savent pas vraiment. Et donc il reste plus qu'une catégorie. Il reste plus que qui peut vraiment définir et d'une manière objective et d'une manière et qui nous donne quand même de l'espoir, d'accord. Parce que ça c'est important aussi. Et la seule personne qui peut vraiment définir et nous permet de savoir qui nous sommes véritablement, c'est notre Créateur. C'est le seul. Dieu. Il n'y a que lui qui sait vraiment tout. Parce que lui, il connaît tout du début. Il nous connaît même jusqu'à la fin. Donc, il connaît tout, lui. Hein? Alors, ce n'est pas parce qu'il connaît d'avance que c'est lui qui fait les choix. D'accord ? Ça, c'est la préconnaissance de Dieu, la préscience de Dieu. Il est en dehors du temps, donc il sait la fin, lui. Ok? Mais les choix, c'est quand même nous qui les faisons. C'est nous qui nous a donné le libre arbitre. Donc les choix, c'est les décisions, c'est nous qui les prenons. Donc il est vraiment le seul qui soit objectif, qui connaisse tout, du début jusqu'à la fin, les pensées, même inconscientes, il les connaît. Les motivations dans les choses que nous faisons. Parce que quelquefois, les gens font des choses magnifiques, mais la motivation est peut-être très naturelle, très orgueilleuse, très motivée pour l'ego de la personne, pas pour les gens qu'elle peut-être elle peut servir. Et ce qui est magnifique avec notre créateur, c'est que on pourrait avoir, en fait, imaginez qu'on dévoile tout ce que nous sommes. On aurait peut-être très peur. Même on se ferait peur nous-mêmes. Sérieusement. Parce qu'en nous, il y a quand même des ténèbres. D'accord ? Alors, il n'y a pas que des ténèbres, mais il y a des ténèbres, et des ténèbres profondes. Et Dieu qui est saint, il voit tout. Il voit la profondeur des ténèbres que nous-mêmes, nous n'avons pas idée de la profondeur des ténèbres qui est dans notre cœur. Voilà. On sait qu'on est pécheur, d'accord, on est chrétien, on a convaincu de ça. Mais on ne pense pas qu'on est pécheur autant que ça. Je vous le dis. D'accord. Mais Dieu qui est saint, lui, voit tout ça. Et pourquoi il y a de l'espérance pour nous ? Pour une simple et bonne raison. C'est que Dieu n'essaye pas d'arranger notre situation, notre vie, ce qu'on appelle la vieille nature pécheresse. Il n'a pas eu le projet d'essayer de l'embellir, de la parfumer, de la maquiller, de la redresser, de la redessiner. Non, la solution pour la vieille nature pécheresse, c'est la croix, c'est la mort. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est que Dieu, c'est ce qu'on a fait, le jour où on a accepté Jésus dans nos Christ, on a Jésus-Christ dans notre vie, on a accepté d'aller à la croix. C'est là qu'on l'a rencontré, c'est au pied de la croix. D'accord ? On lui donne nos péchés, on lui donne notre vie, il prend nos péchés, et en échange, il nous donne sa vie, il nous donne sa grâce, il nous donne sa justice, il nous donne ses perfections, il nous donne une nouvelle vie, il nous donne le Saint-Esprit, il nous donne la vie éternelle. Et une nouvelle identité. Et c'est ce que nous sommes véritablement. C'est pour ça que c'est tellement important, en tant que croyant, en tant que chrétien, de ne pas se connaître selon la chair. C'est Paul qui le dira. On ne se connaît plus les uns les autres, mais même nous-mêmes, on ne doit plus se connaître selon la chair. C'est pour ça qu'il va dire en Philippiens chapitre 3, oubliant ce qui est en arrière, si on reste collé à nos échecs, à nos erreurs, à nos blessures, je veux dire, on va se retrouver avec une identité de victime, une identité de criminel, une identité de meurtrier, une identité... Vous imaginez Paul, meurtrier de... Je veux dire, il a fait tuer des chrétiens. Comment tu peux servir l'évangile de grâce si ton identité, c'est meurtrier ? D'accord ? Donc, il faut oublier. Et vous allez dire, oh, mais c'est trop facile, ça. Et c'est ce qui est difficile lorsqu'on est chrétien, qu'on vit dans un corps, qu'on commence à découvrir ce que nous sommes en Jésus-Christ, le pardon, la grâce, la nouvelle identité qu'on a en Jésus-Christ, le regard du corps de Christ qui est maintenant le regard de Christ sur nous. Et c'est pour ça qu'on en a besoin, parce que c'est très pratique, très concret. Et j'aime vous dire que quand on retourne dans nos familles, eux, ils n'ont pas du tout, ils n'ont pas ce regard-là sur nous. Et quelquefois, c'est difficile quand on est jeune chrétien, parce que eux, ils me connaissent dans la chair. Eux, ils connaissent avec mes erreurs. Eux, ils connaissent avec mes bêtises. Eux, ils connaissent tout. Mais ils savent, eux, ils se privent pas de faire ressortir les mauvais côtés. D'accord? Et d'enfoncer, et donc c'est souvent le contraste. Parce que nous, on a, dans le corps de Christ, on a choisi de pas se connaître selon la chair. On veut se connaître en Christ. Parce que ça, c'est ce qui est éternel. Ça, c'est notre véritable identité. Ça, c'est ce que Dieu dit de nous. Et on a besoin de le découvrir. Et c'est tellement libérateur. Parce que cette nouvelle identité, ça nous assure un avenir. Et combien de gens vivent dans la crainte aujourd'hui parce que justement, ils sont en train de gagner leur avenir. Ils sont en train d'acheter leur avenir. Ils sont en train de payer pour un avenir. Nous, notre avenir, il est assuré par Jésus-Christ. Et donc, ça nous délivre de la pression D'accord ? Ça nous délivre du standard, du résultat. On est accepté dans le bien-aimé. On a parlé de ça déjà. On est aimé. On est enfant de Dieu. On a été adopté. On est scellé du Saint-Esprit. Et donc, découvrir ce que nous sommes en lui, en recevant sa grâce, en recevant la vérité de la parole de Dieu, en vivant comme Jésus nous invite à le faire, de vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Hein? De vivre de la vérité et de la grâce. De vivre de la parole, de vivre de Christ. De se nourrir de Christ. Et on va parler de ça ce soir. C'est comment on va recevoir cette nouvelle identité. Eh bien, si on se nourrit de Christ. Si on regarde, si on écoute et on regarde à ce que nous sommes par la foi, à ce que nous sommes en Christ, à ce que nous sommes et nous serons dans l'éternité. Et c'est ça la foi, c'est que, il faut le reconnaître, entre mon expérience et ce que Dieu dit de moi, on parlait de l'histoire de Gédéon dans Juges chapitre 6, quand l'ange de l'Éternel s'approche de lui qui lui dit « vaillant héros », alors que lui, c'était plutôt le gars qui se cache dans la cabane derrière pour essayer de sortir un peu d'orge pour survivre, faire vivre sa famille. C'est pas un vaillant héros. Mais ça, c'est le regard que nous, naturel, on a sur nous-mêmes. Que lui, il avait sur lui-même, que le monde peut avoir sur nous, que nos familles, nos proches peuvent avoir sur nous, nos amis peuvent avoir sur nous. Mais pas le regard de Jésus. Et pas le regard qui est la vérité. D'accord? Et si on reste sous ce regard-là, on est prisonnier. C'est pour ça que, si le diable peut nous empêcher de savoir qui nous sommes en Jésus-Christ, il nous tient comme une marionnette quelque part, parce qu'il tient les profondeurs de notre valeur, de notre inconscient, de ce qui motive nos décisions. Donc c'est tellement important de réaliser ça. Et j'aimerais vous dire, c'est ça réussir sa vie. Est-ce que Jésus-Christ a réussi sa vie ? Si tu regardes aux critères de ce monde, il n'a pas réussi grand-chose. Sérieusement. Il est mort très jeune. Bon, à l'époque, 33 ans, peut-être c'était... Peut-être on pouvait vivre plus vieux, mais c'est... L'espérance de vie était peut-être plus courte. Hein. Mais donc, il est mort quand même très jeune. Il est mort d'une mort affreuse, comme un coupable, comme un condamné, comme un rejeté, comme un paria, comme un abandonné. Il a choisi 12 disciples qui n'étaient pas des gens très érudits. Qui dès qu'il y a eu des problèmes, ils se sont tous tirés et qui l'ont abandonné. Si on fait le constat de sa vie, humainement parlant, avec nos critères de ce monde, il a raté sa vie, totalement raté sa vie. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse attention. C'est que si on mesure notre vie selon les critères de ce monde, eh ben on est un échec. Mais si on les mesure avec les critères de Dieu, même nos échecs deviennent des triomphes. Ceux qui sont apparemment des échecs peuvent devenir des triomphes. Même nos erreurs peuvent être transformées en triomphes. D'accord ? Alors Jésus n'a pas fait d'erreur, lui. Mais son sacrifice, la façon dont il s'est offert, la façon dont il a servi, la façon dont il a enseigné, la façon dont il a semé dans le cœur de ces hommes qui vont changer le monde. Et c'était pas des érudits. Ils n'avaient pas fait d'institut biblique. D'ailleurs, les pharisiens disent « Mais comment vous savez tout ça, vous ?» Vous n'avez pas fait d'institut biblique, vous n'avez pas été chez les pharisiens, vous connaissez rien, vous. Mais connaissez Jésus. Et ils ont appris à se connaître en Jésus-Christ. Et ils ont relevé le défi que Dieu leur demandait. Alors, ils avaient un appel particulier, c'était d'être apôtres. D'accord? Il n'y en a eu que 12. On est d'accord. Mais chacun d'entre nous, on a un appel en particulier. On n'est pas appelé à être apôtre, personne n'est apôtre. C'est fini, cet office-là, d'accord ? Mais on est appelé à être enfant de Dieu, on est appelé à être serviteur, on est appelé à être ami, on est appelé à être frère et sœur de Jésus-Christ. Donc, tout ça pour dire que seul Christ, seul Dieu, seule la parole de Dieu doivent être les seuls critères pour définir qui je suis, pour découvrir qui je suis, pour grandir dans ce que je suis. Alors, le problème que nous avons tous avec notre identité, c'est qu'on est pécheur et qu'on est tous rongés par cette maladie de péché qui nous séduit, qui nous aveugle, qui nous trompe, qui nous emmène dans des fois des décisions folles. Et j'aimerais vous dire que notre problème, c'est que nous ne sommes pas et nous n'arrivons pas à être ce que nous voudrions être. Ça, c'est tout le problème même de la psychologie séculière, avec laquelle, sur certains constats, on est d'accord, mais dans l'ensemble, on n'est pas tout à fait d'accord. Hein, parce qu'évidemment, il n'y a pas la dimension de Dieu, il n'y a pas la dimension de l'esprit, il y a des tas de choses qui ils font des constats véridiques, d'accord ? Ils ont des solutions. Quand quelqu'un a vraiment des problèmes psychiatriques, la solution, c'est la camisole chimique, hein. C'est-à-dire qu'on l'empêche de penser. Ouais, c'est pas très réjouissant. Comme solution, hein, mais on n'a pas vraiment de solution. Si y a un psychiatre qui disait que si on trouvait la pilule contre la culpabilité, il deviendrait milliardaire du jour au lendemain, d'accord ? Donc voilà. Alors, je jette pas la pierre sur les psychologues et psychiatres, mais il manque de la connaissance de Dieu. Donc ils travaillent que dans le naturel, ils travaillent qu'avec l'homme pécheur et ils essayent de déculpabiliser l'homme du péché, mais ça résout pas le problème. La culpabilité est toujours là. Donc alors que nous soyons coupables, c'est la vérité, hein. La Bible dit en Romains 11:32, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. C'est-à-dire qu'aux yeux de Dieu, Romains 3:23, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est la vérité. On est tous pécheurs. Tous. Mais la bonne nouvelle, c'est que même si on est tous enfermés dans la désobéissance, c'est que maintenant Dieu peut faire grâce ou miséricorde à tous, en Romains 11:32. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est que Dieu, maintenant, il peut faire miséricorde à tous. Il peut offrir ce salut à tous. D'accord ? On n'a rien demandé pour venir sur cette terre. On est là. On est né pécheur. Ben, pour être sauvé, on n'a rien à faire non plus. C'est pour ça que ce salut est gratuit. D'accord? Enfin, on n'a rien à faire. On a à le recevoir. C'est ça la foi. D'accord? C'est avec notre liberté de dire oui, je reconnais que je suis pécheur et je reconnais que j'ai besoin d'un sauveur et de Jésus-Christ. Parce que l'homme naturel, dans tous les cas, il n'arrivera pas jamais à plaire à Dieu. On n'arrive pas à faire le bien qu'on voudrait, on fait même le mal qu'on veut pas dans Romains chapitre 7, versets 15 à 20. Il ne peut rien faire qui plaît à Dieu. Pourquoi ? Parce que la chair ne plaît pas à Dieu. Et l'homme naturel, il a que la chair. D'accord ? Quand je parle de la chair, c'est la vieille nature pécheresse. Donc il ne peut pas plaire à Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin tellement de cette nouvelle identité. Et c'est pour ça qu'on a besoin de connaître tellement cette nouvelle vie qu'on a reçue en Jésus-Christ. Et le moyen, ça va être bien sûr la parole de Dieu. Pour bien comprendre la situation, c'est Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 7, qui dit qu'on était morts par nos offenses et par nos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Et si ça s'arrête là, c'est le désespoir. La bonne nouvelle, c'est que le verset 4 commence par « Mais Dieu ». C'est qu'il y a une solution, c'est qu'il y a un espoir. « Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. » « Mais Dieu qui est riche en miséricorde. » Et c'est ça notre espérance. Notre espérance, c'est Dieu. C'est sa miséricorde, c'est sa grâce, c'est son amour. « Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. » On était morts, donc on est passé par la mort. Maintenant, on a été rendus, on a une nouvelle vie. D'accord ? C'est par grâce que vous êtes sauvés, en parenthèse. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Parce que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, afin que personne ne se glorifie. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est le noir, on était ténèbres, et maintenant on est devenu lumière, on a une nouvelle identité. Elle est véritable, et la bonne nouvelle, c'est Apocalypse chapitre 1, verset 5. Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Donc, la bonne nouvelle, mes amis, vous savez ce que c'est la bonne nouvelle ? C'est que Dieu, par la croix, nous a délivrés de nos péchés. Non seulement des actes que nous avons commis, mais de notre nature pécheresse à laquelle nous étions liés. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Je ne suis plus mes erreurs, je ne suis plus mon passé, je ne suis plus mon péché, je ne suis plus. J'aimerais vous dire, Ça, c'est quand on comprend ça, quand on découvre ça, quand on grandit dans cette révélation de ces choses-là, on commence à être libre. C'est la vérité qui nous affranchit. On commence à avoir une perspective qui s'ouvre devant nous. Parce que sinon, on est enfermé. C'est comme, tu sais, tu veux essayer de te lever, boum, tu retombes. Et tu retombes chaque fois plus bas. Tu essaies, et boum, tu retombes. Mais là, c'est Christ qui t'a relevé d'entre les morts. Et là, maintenant, tu vis éternellement. Donc, c'est complètement différent. Et il nous a sauvés de nos péchés par son sang, délivrés de nos péchés par son sang, pour faire de nous une nouvelle création, de Corinthiens chapitre 5, verset 17. Et voici ce qu'il dit. Hein. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà. Nouvelles. Et là, nous allons découvrir qu'en Christ, ça c'est le premier chapitre d'Éphésiens, nous avons tout, tout reçu. Il nous a tout donné. Nous avons absolument, dans cette nouvelle identité, il ne manque rien. Tout ce qui manque, c'est que nous la découvrions, que nous vivions dedans, que par la foi, nous croyons. Et nous, quelque part, notre vie, notre expérience, maintenant, va être de plus en plus en accord avec cette nouvelle identité. C'est ça, marcher par la foi. C'est ça, marcher en Christ. C'est que avant, je ne pouvais rien faire d'autre que de pécher avant. Maintenant, je peux marcher. Alors, je pêche encore. Hein, tant qu'on sera sur cette terre, on pêchera encore. Mais on a besoin de la parole de Dieu qui nous lave, hein, comme Jésus le démontre en Jean chapitre 13, qui lave les pieds de ses disciples. On est attaché encore à la poussière de ce monde, d'accord. Il n'y a pas de problème. Mais dans notre nouvelle identité, on ne pêche plus. Et c'est pour ça que Éphésiens chapitre 1, hein, il nous a bénis, il nous a élus, en lui on est saint, irrépréhensible, prédestiné, enfant d'adoption, aimé, on est au bénéfice de sa grâce, on est racheté, on est délivré de nos péchés. Tout ça, c'est le résumé de Éphésiens 1. Hein. Et il nous offre la possibilité de connaître ses plans, sa volonté. Nous sommes devenus héritiers, scellés du Saint-Esprit. Donc ça, c'est tout ce que Dieu... c'est la bonne nouvelle, hein, c'est que Dieu nous a donné les arts de l'esprit et le Saint-Esprit comme un gage de. Et si nous devons avoir cette assurance, parce qu'on a le Saint-Esprit en nous, ben on est une nouvelle création, on est une nouvelle personne. La tragédie dans tout ça, c'est que Dieu nous donne cette nouvelle identité, mais que nous, ben quelquefois, on est encore, on a du mal à croire Dieu. On a du mal à vivre dans cette nouvelle identité. On a du mal à grandir dans cette nouvelle identité. Et c'est parce qu'on refuse la grâce de Dieu. Parce qu'on refuse... on voudrait mériter peut-être d'être quelqu'un. Toujours la racine, c'est l'orgueil. Non, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. On en a déjà parlé. Et c'est tellement important de comprendre ça. Parce que il faut savoir qu'on a aussi une volonté. N'est-ce pas? Et Dieu respecte cette volonté. Dieu respecte cette volonté. La question, c'est qui est-ce que je vais écouter? Qui est-ce que je vais croire? En qui je vais mettre ma confiance? Et très souvent, ben, on met notre confiance en nous, dans ce monde, dans ces critères, dans le prince de ce monde, sans s'en rendre vraiment compte, parce qu'on est influencé par tout ça, au lieu de mettre notre confiance en Jésus-Christ. Et la vraie liberté, c'est de mettre notre confiance en Jésus-Christ. Alors, comment est-ce qu'on va saisir cette offre? Comment on va découvrir qui nous sommes en Christ? On a quelques minutes encore. Comment découvrir qui je suis? J'ai deux mots que j'aimerais vous proposer ce soir. Ces deux mots, c'est écouter et regarder. On n'a pas besoin de... Comment dire? C'est pas des choses nouvelles. C'est juste qu'on a besoin de d'entendre encore avec créativité ce que Dieu essaye de nous communiquer depuis toujours. Et on a du mal. Il faut le reconnaître. Il y a beaucoup de choses qui nous empêchent d'écouter. Et c'est normal. Parce que nous sommes dans une bataille. bataille spirituelle, on ne voit pas le diable partout, mais bien qu'il soit très actif, hein, et qu'il essaye par tous les moyens de nous empêcher d'écouter. Et j'ai noté 5 points. La première, c'est le problème du cœur, c'est un problème d'attitude, d'indépendance de l'homme naturel, d'accord, il n'a pas envie d'écouter. Regardez, même les enfants, hein, tu leur dis les choses une fois, deux fois, trois fois, ils veulent pas, ils veulent faire ce qu'ils ont envie de faire, hein. Même ma petite filleule qui est formidable, des fois, elle sait qu'il faut pas monter sur le canapé, mais elle a envie de monter sur le canapé et elle écoute pas, elle en fait qu'à sa tête, d'accord, au risque de se casser la tête, parce qu'il y a des risques quand on a fait qu'à sa tête. Donc, mais ça c'est juste pour montrer que même un tout petit bébé, ça commence là, je veux dire, c'est pas d'où ça vient, mais ça vient du cœur, d'accord. Par nature, on est indépendant, on est suffisant, on est orgueilleux. Donc, quand on est indépendant, suffisant, orgueilleux, on n'écoute pas. Donc, par nature, nous n'écoutons pas. Pour écouter, il va falloir que Dieu travaille et attire notre attention, d'accord. Et ça, c'est la grâce de Dieu encore. Si Dieu n'avait pas attiré notre attention, alors j'aimerais dire que quelquefois le processus est douloureux, d'accord. Et c'est, vous savez, un enfant, c'est souvent après une discipline qu'il y a un moment de peut-être d'attention. Alors ça peut être les larmes, ou alors ils n'ont pas écouté, ils se sont blessés, il faut prendre soin, les soigner. Enfin, je veux dire, et c'est là, à travers la souffrance, l'épreuve, là, à ce moment-là, il y a un moment où ils sont tout à fait attentifs, ils sont à l'écoute de ce que peut-être les parents vont dire, le papa ou la maman va dire. Ben nous, c'est pareil. Donc. Ça, c'est la première chose. Donc, si on a une attitude d'orgueilleux ou d'indépendant ou de « j'ai pas besoin de Dieu », ben forcément, on va pas écouter ce que Dieu a à dire. Et ça, c'est la nature pécheresse qui est en nous de tous les hommes. Donc, par nature, on n'écoute pas Dieu. Ensuite, dans ce monde-là, il y a les distractions. Vous savez, quand on est distrait, on n'écoute pas. Ah, j'étais distrait, j'ai pensé à autre chose, ou je regardais autre chose, ou je faisais autre chose, ou j'étais occupé à autre chose, ou... Et il y a beaucoup de distractions, et c'est donc difficile d'écouter. Hier, on était à une réunion avec ma maman, et puis tout le monde parlait en même temps, et puis on n'arrivait pas à comprendre ce qu'ils disaient. D'accord, il y avait plusieurs discussions en même temps, c'est difficile. Et aujourd'hui, il y a des voix tellement partout, tout autour de nous. Tu vas dans un magasin, il y a déjà de la musique. Partout où tu vas, il y a du bruit partout. Mais c'est une stratégie. Il y a une distraction organisée. Pourquoi ? Pour qu'on n'écoute pas. On est tellement occupé, on est dans le superficiel, partout, tout le temps, et on ne prend jamais le temps d'écouter. Ensuite, les occupations. On est dans un style de vie aujourd'hui, vous savez, les agriculteurs, ils ont des emplois du temps très chargés, mais il y a des saisons où ils peuvent se poser, où on doit attendre, je veux dire, quand tu as semé, qu'est-ce que tu fais de plus ? Tu vas regarder ton champ, mais... D'accord ? Donc il y a des moments où il faut travailler dur, mais il y a des moments où voilà, on n'est plus dans ce style de vie-là, d'accord, agricole, où on est conscient de la création, de la nature, de tout ça, du temps qu'il faut. On n'a plus le temps aujourd'hui. On passe d'une chose à une autre, on enchaîne d'une chose à une autre, on commence le matin en cours, d'accord. Le seul moment où on peut prendre un temps avec le Seigneur, c'est aux toilettes, on lit un petit feuillet, et on continue, et on enchaîne. Quand on a des enfants, quand on a un travail, je veux dire, on est occupé. Et on fait pas des mauvaises choses. Mais juste tellement occupé que la journée a passé et que le soir, on est trop fatigué. Et on n'a pas pris le temps d'écouter. Non, mais c'est une stratégie contre nous, pour nous chrétiens, d'accord ? C'est la frénésie des activités, on n'a plus le temps de penser aujourd'hui. Donc on enchaîne, d'accord ? Ensuite, les soucis. Qui d'entre nous n'a pas des problèmes ? D'accord ? Peut-être il y a quelques jours dans l'année où ça va, on n'y pense pas, mais sinon on a... Ou cet enfant, ma santé, ou alors ceci, c'est le problème de finances. Enfin, il y a toujours quelque chose. D'accord, ma voiture qui démarre pas. Enfin, je veux dire, et quelque part, et puis il y a peut-être, quelque part, il y a ce qu'on appelle un bruit dans l'âme. Vous savez, comme un acouphène, un bruit qui est tout le temps là, qui ça ronronne. D'accord? Et ça couvre, en fait, on est tellement pris par ce bruit, et c'est l'atmosphère, hein, le prince de la puissance de l'air qui entretient ce bruit dans l'âme, qui fait qu'on n'entend pas. Les soucis étouffent la semence, étouffent la parole de Dieu, dans la parabole du semeur. Le bruit de notre âme souffrante, de plainte, de gémissement, de crainte, d'incompréhension, de colère, d'amertume, de rancune, de... Alors, quand ça je veux dire, il y en a qui vont jusqu'à être malades psychologiquement. Hein. On est tous malades, un peu. Beaucoup même. Mais après, ça devient même physique. C'est-à-dire que ça devient... C'est psychosomatique, ça ressort sur le corps, d'une manière ou d'une autre. Hein. Ils disent que les maladies sont à, je sais pas quel pourcentage, mais plus de 70% peut-être psychosomatiques. Donc, vous comprenez bien que si on arrive à connaître nos identités en Christ, à rentrer dans ce repos de la foi, à recevoir la grâce de Dieu, à écouter la parole de Dieu, et quelque part, on va pouvoir rentrer dans ce que Dieu a préparé pour nous. Ce que le diable ne veut surtout pas. Et puis, il y a un cinquième point, qui sont les fausses espérances. En mettant notre confiance en autre chose que Dieu. Peut-être en une relation, un mari, en une femme. Alors, bien sûr, dans un couple, on a besoin de se faire confiance, mais je veux dire, notre sauveur, ce n'est pas notre mari ni notre femme. C'est Jésus-Christ. D'accord ? Notre pasteur, ce n'est pas Jésus-Christ. D'accord ? C'est important d'avoir un pasteur, mais ce n'est pas le sauveur, c'est Jésus le sauveur. Hein ? Donc, voilà, on met notre confiance dans de l'argent, peut-être, une promotion. Oh, tout va aller mieux maintenant. Vous savez, un budget, il en manque toujours. Tu gagnes 2000, 3000, 5000, il en manquera toujours. Après, ça va avec les dépenses. Donc c'est pas l'argent la solution. On le sait bien. Peut-être une position sociale, le pouvoir. On fait tellement de choses qu'on peut... des fausses espérances. Et ça, c'est le diable qui travaille. Et le problème du peuple juif, c'était qu'ils mettaient leur espérance dans des idoles. Alors nous avons plus ces idoles de bois sculptées, repeintes d'or et de tout ça. Hein, à qui on apporte des sacrifices. Dans certaines cultures, c'est encore comme ça. Vous allez en Inde, c'est comme ça que ça marche. Hein. Ces idoles-là, elles sont peut-être autres que ces. Hein, ça peut être l'idole du travail, l'idole de la réussite sociale, l'idole de la carrière, l'idole de la télé, de l'internet, du téléphone. Enfin, j'ai tellement de choses où on met notre espérance. Et pourtant, tout ce que Dieu nous demande. C'est le Shama. Vous savez ce que c'est le Shama d'Israël? Ça, c'est des versets qu'il faut connaître par cœur. C'est Deutéronome, chapitre 6, versets 4 à 9, je vais vous les lire. Et ça commence comme ça. C'est ce que Dieu demande à son peuple. C'est ce que Dieu nous demande. Deutéronome 6, 4. Et il dit ceci. Écoute Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Écoute, ou l'Éternel est un. Écoute Israël, écoute Israël, écoute, écoute, c'est tout ce qu'il nous demande, écoute. Et après, si on écoute, eh ben, verset 5, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Ce que Dieu veut, c'est que la vérité soit au fond du cœur. C'est une transformation d'identité, c'est une découverte d'identité. C'est pas d'essayer d'appliquer des choses de la loi de Dieu dans la chair. Sinon, ça fera de nous les pharisiens et ça fera de nous les pires ennemis de Dieu. D'accord? L'écoute, c'est qu'on se place sous la vérité et c'est qu'on laisse cette vérité nous transformer. C'est pas toi qui vas te changer. Mais c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Donc, écoute. Après, verset 7, « Tu inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » Vous savez pourquoi il dit tout ça? Quand tu te lèves, quand tu te couches, quand tu manges, quand tu vas en voyage, sur ta porte, dans ta maison. Parce que souvent, on rentre, on sort, on passe. C'est parce qu'on a tendance à oublier. On a tendance à ne pas écouter. On a tendance à partir dans nos pensées, dans nos fausses espérances. On a tendance à courir après. Vous comprenez? Et si on écoutait simplement? Et pour nous, c'est quelque chose de difficile d'écouter. Regardez, hein, avec les enfants, l'éducation, c'est ça le problème. C'est attirer leur attention, c'est saisir les moments où ils sont enseignables, où ils écoutent. Parce que tu peux leur dire tout ce que tu veux, mais quand ils n'écoutent pas, ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre. Et le problème pour nous, c'est que lorsqu'on écoute, c'est que forcément, ça va nous remettre en question. Parce que le même mot dans le grec qui parle de l'écoute, c'est aussi le mot qui est souvent traduit par obéissance. C'est le mot upakuo. C'est écouter, ça veut dire upa, c'est akuo, c'est écouter, et upa, ça veut dire se mettre dessous ce qu'on écoute. Donc il y a une idée de soumission à recevoir. D'accord? Et l'obéissance, ça veut dire que quand on obéit, c'est qu'on renonce à nous-mêmes. On renonce à notre volonté, puisqu'on se soumet à la volonté d'un autre. Et c'est dur. Et ça demande Dieu, en fait. Ça demande l'amour de Dieu. Ça demande la compréhension du caractère de Dieu, de la nature de Dieu, de la fidélité de Dieu, de la bonté de Dieu. Et j'aimerais vous dire que, même dans l'Ancien Testament, dans Juges chapitre 2, verset 2, est-ce que je vais avoir le temps de vous dire ça ce soir ? Juste, oui, rapidement. Il dit, et vous, donc c'est Dieu qui parle, hein, il dit, verset 1, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Et vous, vous ne traiterez point d'alliance avec les habitants de ce pays, vous renverserez leurs autels. Mais vous n'avez point obéi à ma voix ou écouté ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? Et j'aimerais vous dire qu'il y a tellement de choses autour qu'on est, prompt à écouter. Dieu parle. On dit, mais j'entends pas Dieu. Mais Dieu parle. L'a dit, en Proverbes chapitre 2, la Bible dit que la sagesse crie dans les rues. Dieu parle, mais on veut pas l'écouter. On veut pas aller à l'endroit où il parle. On veut pas aller à l'endroit où il va nous avertir. On veut pas être responsable de ce qu'on a entendu. On préfère rester dans l'ignorance. D'accord? Et c'est tragique. Parce que ça va être un piège pour eux. Et là, la tragédie du livre des juges, c'est qu'il est écrit « Le peuple servit l'Éternel » au verset 7 du juge 2. « Pendant toute la vie de Josué, pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. » Verset 10. « Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir d'Égypte, du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux, des peuples qui les entouraient. » C'est-à-dire que ils n'ont pas écouté Dieu. Ils disent, « Oh non, mais non, c'est pas grave !» D'accord ? Et puis c'est devenu un piège pour eux. Et ça a pris juste une génération, deux générations. Et c'est ça la tragédie. C'est pour ça que on verra la semaine prochaine cette importance d'écoute, de l'écoute. Dans Jérémie chapitre 22, 29, c'est Dieu qui plaide avec la terre. Il dit, terre, terre, terre. Alors, pas deux fois, trois fois. Écoute la parole de l'Éternel. Et quelque part, Dieu supplie avec nous. Mais si seulement vous m'écoutiez. Et c'est ce qu'on fait là ce soir. D'accord? Et j'aimerais vous dire que c'est très facile de faire autre chose que d'écouter Dieu. C'est très facile d'avoir d'autres choses qui nous semblent plus importantes. Et ça devient un piège pour nous. Ça devient un piège parce que c'est pas tout de suite qu'on voit le résultat. Comprenez? C'est le péché, très souvent, on pense, voilà, ça c'est le péché. Imaginez ce pupitre, c'est le péché. Je le touche et je suis foudroyé. Non, je le touche, je ne suis pas foudroyé. D'accord? Je le prends comme ça, je ne suis pas foudroyé, là, je vais très bien, ça m'amuse. D'accord? J'écoute pas Dieu parce que moi, regarde, je peux m'amuser avec ça, c'est super, regarde tout ce qu'on peut faire. Puis à un moment donné, je veux partir. Et puis là, Ah mais là, je peux plus partir. La même chose qui était rigolote devient plus du tout rigolote. Je suis prisonnier. Pourquoi? Parce que je n'ai pas écouté Dieu. Moi, je pensais que je savais mieux. Dieu, mais hein, qu'est-ce qu'il il est vieux, il comprend rien, il a dépassé, il est à côté de la plaque. Comprenez? Et c'est la tragédie. Et c'est la tragédie de notre siècle aussi aujourd'hui. C'est qu'on est occupé à tellement d'autres choses, distrait par tellement d'autres choses, que écouter Dieu, oh, encore écouter la parole de Dieu. J'aimerais vous dire, je conclue avec ça. Quand j'étais jeune chrétien, quand j'ai commencé à entendre la parole de Dieu, la vérité, j'ai dit ça c'est la vérité. Là il y a l'amour, là il y a la vérité, là il y a la grâce. Et je peux vous dire que quand j'étais jeune, j'étais m'asseoir pour écouter. Moi c'était aller dehors, jouer, faire ceci, activité, bouger, machin. Et j'ai appris à m'asseoir. Pour ça, il a fallu que Dieu me casse le dos. Enfin, je me suis cassé le dos. C'est pas Dieu qui m'a... Excusez-moi. Dieu a permis que je me casse le dos et que je sois obligé d'être assis, allongé. Et j'ai commencé à écouter. Et j'ai commencé à trouver ça tellement extraordinaire. Et j'aimerais vous dire, 35 ans plus tard, qu'est-ce qu'on fait? On continue à faire ça. Parce que si on arrête d'écouter, si on arrête de recevoir l'amour de Dieu, si on arrête de laisser Dieu nous restaurer de nous affermir dans cette nouvelle identité, on s'égare. On est fou, on est malade, on se trompe. Et c'est quand on est loin que tout d'un coup, ça arrive pas d'un coup. Le péché, je touche et la foudre me tombe dessus. Non. D'accord? Dieu, dans son plan, dans sa grâce, c'est que, non, ça vient pas d'un coup, les conséquences. Mais elles viennent. Et si seulement on écoutait. Hein, c'est ce que Jésus dit ici. J'ai tellement voulu vous réunir, mais vous ne l'avez pas voulu quand il regarde Jérusalem. J'ai envoyé des prophètes, je vous ai parlé depuis, je vous parle encore et encore. Mais vous n'avez pas, on le verra dans le livre de Jérémie, vous n'avez pas écouté. C'est ça notre tragédie. C'est qu'on n'écoute pas ce que Dieu dit parce que on sait mieux. Nous, on voit. Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on écoute? OK? Donc, on continuera sur ça la semaine prochaine. OK? Seigneur, merci.